Roma Felix, cui tuorum principum est consecrata glorioso sanguine. Ô bienheureuse Rome, divine des matines de la fête de la Saint-Pierre et Saint-Paul, ô bienheureuse Rome, qui a été consacrée par le sang glorieux de deux princes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On peut être étonné de penser que la liturgie romaine appelle les apôtres Pierre et Paul deux princes, et d'une façon générale aussi les apôtres, puisque dans le chant du graduel on dit principes et orum, elle les appelle des princes. Et si l'on regarde l'histoire, eh bien on peut le comprendre facilement. Le Dieu Tout-Puissant, par l'intermédiaire de son prophète Daniel, avait annoncé que avant le règne, avant le royaume du Christ, il y aurait quatre grands royaumes qui le précéderaient. Et dans une autre prophétie, le prophète Daniel avait donné un point de repère, c'était le décret qui permettrait la reconstruction du temple qui avait été détruit, le temple de Jérusalem, détruit au moment où les Juifs avaient été déportés à Babylone. Et c'est le roi Darius, justement, au moment du passage du premier empire, qui était celui des Assyro-Babyloniens, au deuxième empire, qui était celui des Perses, qui a permis le décret de reconstruction du temple. Et le prophète Daniel avait dit, après tant et tant et tant d'années, eh bien, viendra le Christ. Donc, il savait, au nombre d'années, le temps où le Christ allait paraître. C'est pour ça que quand Saint Jean-Baptiste a commencé sa prédication, tout le monde a cru que c'était lui, parce que les docteurs juifs savaient que ça correspondait au temps qui était annoncé par le prophète Daniel. Par conséquent, ces quatre grands royaumes, nous venons d'en citer deux. Le premier, ça a été l'Empire Assyro-Babylonien, sur toute la région de Babylone et de la Syrie. Il a été suivi d'un autre empire qui a été celui des Mèdes et des Perses, surtout le golfe Persique dont on a tant parlé ces temps-ci, et qui s'est étendu d'une façon très importante aussi. Ce royaume, ce deuxième royaume, a été remplacé par un royaume encore plus puissant, à la fois plus puissant par ses armes, mais surtout plus puissant par son esprit. Et à ce point de vue-là, il n'a pas été dépassé d'ailleurs, ça a été l'Empire des Grecs. De Macédoine est descendu Philippe de Macédoine, qui a subjugué la Grèce, et son fils Alexandre. En quelques années, il n'y a pratiquement aucun conquérant qui a conquis autant de choses en si peu de temps, avec des moyens qui n'étaient pas proportionnés à l'époque. Il a été dans toute la région qu'occupaient avant les Assyro-Babyloniens et les Perses. Il est passé au-delà de la Perse jusque à l'Indus, le fleuve qui le sépare de l'Inde. Il a traversé le fleuve, il a battu le roi Porus et ses éléphants, et il a même pénétré, il a au moins ouvert des comptoirs commerciaux et des rapports de civilisation avec les Indes. Et puis, étant mort très jeune, il a, avant de mourir, distribué ses conquêtes à ses lieutenants, qu'il a intelligemment marié avec des princesses de chaque pays où ils étaient, des princesses assyriennes, des princesses perses ou mèdes, de façon à ce que l'assise de ces généraux soit plus solide, et effectivement, ils ont fondé des dynasties grecques qui se sont imposées non seulement par la force des armes, mais surtout par la puissance de leur génie et par leur esprit philosophique, et qui en même temps ont été eux-mêmes enrichis par tout l'esprit très riche également des Orientaux. Et enfin, il y a eu un royaume encore plus puissant, qui, celui-là était vraiment tout à fait également préparé par la Providence, mais les quatre royaumes étaient préparés par la Providence. Ça a été l'Empire romain, qui a eu lui aussi, au moins à ce que disent les légendes, deux fondateurs, Romulus et Rémus, mais ils se sont battus et c'est Romulus qui a eu le dessus, qui est devenu le premier roi et qui a donné son nom à Rome. Rome qui a d'abord subjugué les peuples voisins, puis toute l'Italie, puis le sud de la Gaule. Après, elle s'étendra dans toute la Gaule, dans l'Espagne. Elle ira même plus tard faire une conquête qui ne sera pas renouvelée, à savoir celle de la Grande-Bretagne, car s'il y a eu plusieurs conquérants de la Grande-Bretagne, ce sont des peuples qui ont émigré sur place et qui s'y sont installés. Mais il n'y a pas eu d'empire qui était à la fois d'un côté de la mer et de l'autre, si ce n'est après eux, après les Romains, ceux des Normands. Mais les Normands n'avaient pas non plus un grand empire à garder. Et puis, ils ont suivi la Méditerranée, ils sont passés par l'Illyrie, l'actuelle Yougoslavie. Ils ont subjugué la Grèce qui, au point de vue de l'esprit, avait un esprit vraiment extraordinaire, mais au point de vue politique et organisation, n'était pas aussi forte que les Romains. Et comme ils étaient divisés par divers rois qui étaient unis uniquement par des liens de l'esprit et de la langue, etc., mais pas politiquement, eh bien les Romains, peu à peu, ont mangé sur tout l'Empire grec. Ils sont venus sur l'ancien empire aussi, assyro-babylonien et perse. Ils sont allés encore plus loin, comme l'avaient fait d'ailleurs les Grecs, jusqu'en Égypte. Et ils ont continué, après l'Égypte, ils sont passés, ils ont été jusqu'à l'Arabie, ils sont passés jusqu'à l'Afrique du Nord, et ils ont rejoint la boucle qui les ramenait en Espagne. Un immense empire, ils se sont encore étendus jusqu'au Rhin, puis après au-delà du Rhin, sur les provinces du Danube, avec l'actuelle Hongrie, la Dacie, avec l'actuelle Roumanie, et ils ont été vraiment presque jusqu'aux extrémités de l'Europe connue à l'époque. Donc un immense, immense empire. Et pour cela, il leur a fallu des hommes très valeureux, des généraux extraordinaires qui menaient des armées et surtout une technique militaire qui surpassait celle de tous les autres peuples, mais aussi, il faut bien le dire, une intelligence politique, juridique, une organisation sociale absolument extraordinaire qui, jointe avec intelligence, avec l'esprit grec, a donné une civilisation comme on n'en avait encore jamais vu. Eh bien, cette organisation sociale qui a percé les fameuses grandes voies romaines qui ont traversé toute l'Europe, elles ont été, comme le dit poétiquement Peggy, les légions romaines ont préparé le chemin aux évangélisateurs. Et ces évangélisateurs, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les 12 apôtres, dont nous avons médité bien des fois cette année la vie. Ce sont ces 12 apôtres dont la plupart étaient des simples pêcheurs. Ce sont eux les grands conquérants du 5e empire, dont il a été dit dans David qu'il dépasserait encore en grandeur et en puissance le 4e, donc l'empire romain, et que, tandis que les autres finiraient, celui-là sera l'éternel. Il durera toujours et il subjuguera tous les autres empires. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'abord, restreint à Jérusalem, les apôtres ont été appelés à côté à Samarie. Puis, après la première persécution qu'il y a eu à Jérusalem, qui a donné le premier martyr, le glorieux Saint-Étienne, beaucoup de chrétiens ont fui la ville, tandis que la plupart des apôtres qui restaient se sont installés à Damas et à Antioche, et puis ailleurs. Déjà, il y a eu une première excursion apostolique avec notamment Saint Jacques jusqu'en Espagne. Et puis il y a eu la deuxième grande persécution à Jérusalem, qui précisément a été le martyre du premier apôtre, Saint Jacques le Majeur, le frère de Saint Jean l'Évangéliste. Et comme ça plaisait au peuple, nous dit le passage des Actes des Apôtres que l'on chantait tout à l'heure, le roi Hérode, c'est Hérode Agrippa, c'est pas le même que celui qui a condamné notre Seigneur, c'est son successeur, a fait mettre Saint-Pierre en prison et toute l'Église priait pour lui et Dieu l'a délivré par son ange qui a fait tomber les chaînes et qui lui a ouvert miraculeusement les portes. Il avait quatre rangées de soldats. Il a réussi pendant la nuit à les passer toutes et il a pu s'enfuir. Il n'a pas pu rester à Jérusalem. Il s'est enfui et là, il a fondé le premier siège épiscopal d'Antioche. C'est pourquoi il y a une fête dans l'année, le 22 février, si je ne me trompe, où l'on fête la chaire de Saint-Pierre à Antioche. Et d'Antioche, qui était dans le pont Euxin, Saint-Pierre a rayonné dans toute l'Asie mineure. On le voit dans la première épître de Saint-Paul, qui est justement adressée à toutes ces églises d'Asie mineure que Saint-Pierre avait lui-même fondées. Quant à Saint-Paul, ses voyages sont célèbres. Il a été lui aussi d'abord à Antioche, là où les premiers chrétiens ont reçu le nom de chrétien. Et ensuite, il a été dans toute l'Asie mineure également. Et puis, un Macédonien, pendant la nuit, lui est apparu en lui disant, viens chez nous, viens chez nous. C'était un songe par lequel Dieu lui faisait comprendre qu'il devait passer le pont Euxin et rentrer en Macédoine et en Grèce, marchant sur les pas d'Alexandre. Et il a subjugué notamment Saint Denis, le philosophe à Athènes, qui deviendra plus tard envoyé par le pape, le premier évêque de Paris. Il a subjugué aussi une ville pourtant très corrompue qui était Corinthe. Et dans toute la Grèce, il a fondé des églises. Puis, il a eu beaucoup à souffrir des Juifs. Lui aussi a été emmené, enchaîné à Jérusalem. Heureusement, il était citoyen romain. Et il a pu faire appel à César. Et puisqu'il avait fait appel à César, le proconsul lui a dit, procureur, tu as fait appel à César, tu iras à César. Et voilà Saint-Paul embarqué sur les bateaux pour être amené à Rome. Et Saint-Paul étant Saint-Paul, quand partout où il allait, il faisait naufrage, il évangélisait l'île où il passait, et bien là, il évangélisait tous ses gardiens, tous ceux qui étaient autour de lui. Déjà, Rome avait reçu les premières lumières de la foi parce que Saint-Pierre, le premier, avait baptisé le centurion Corneille, qui, si l'on en croit Dom Béranger, était de la grande famille des Cornélius, qui était une famille puissante à Rome. Et dans cette famille puissante, ils avaient des gouvernants pour leur maison, qui étaient juifs, un couple qui est resté célèbre à Rome, Priscille et Aquila. Et c'est chez juifs que tandis que les autres apôtres vont se répandre partout, ils vont dépasser toutes les limites de l'Empire romain, de l'Empire perse et autres, puisqu'ils vont aller non seulement en Afrique du Nord, mais ils vont aller jusqu'en Éthiopie, où deux d'entre eux seront martyrisés, mais où ils convertiront le roi d'Éthiopie, et donc une grande partie du peuple des Éthiopiens, donc bien au-delà de ce qu'avaient fait les légions romaines. aussi en Perse, et là aussi il y en a plusieurs d'entre eux qui seront martyrisés, mais ils iront bien plus loin qu'en Perse, eux aussi iront jusqu'à l'Indus, et ils passeront l'Indus, ils rentreront dans les Indes avec saint Thomas, et ils évangéliseront une grande partie des Indes, et certains de leurs disciples iront même jusqu'en Chine. Et de l'autre côté, saint Paul laissera des disciples dans le sud de la Gaule, puis les papes en enverront partout, puisque par exemple à Trèves, qui était une ville impériale très importante à la frontière entre la Moselle et le Rhin, donc l'actuelle Allemagne, eh bien, il y a les quatre premiers évêques, sont quatre disciples directs, dont le premier saint Valérius de Saint-Pierre lui-même. Et ils évangéliseront aussi à nouveau l'Espagne. Et en attendant, Saint-Pierre, lui aussi, dans une audace inouïe, comprenant que Dieu avait uni tous ses peuples sous une même langue, il y avait deux langues officielles, c'était le grec pour les lettrés et le latin pour tous les actes juridiques, avait fait des comptoirs commerciaux, des rapports entre les peuples, avait mis la paix, ce qui facilitait énormément les voyages, les échanges entre les peuples et autres, il avait compris que Dieu l'avait fait pour que l'évangile soit prêché beaucoup plus vite. Et un grand conquérant, ce pauvre pêcheur qui marchait les pieds nus, est allé vers ce qu'on a appelé après l'agro-romano, le champ romain qui a été si fertile en martyr, et vers l'arche romane, la citadelle de Rome, la capitale de tout ce grand empire qui, sur le plan religieux, était aussi lamentable qu'il était grand sur le plan juridique, puisque partout où il avait des conquêtes, il prenait les faux dieux et il les mettait dans son panthéon. Ce qui fait que c'était un résumé de toutes les erreurs, de toutes les idolâtries, de toutes les horreurs, étaient résumées à Rome. Eh bien, dans une audace inouïe, tel un nouveau David devant le grand Goliath, Saint-Pierre a eu l'audace de rentrer à Rome, probablement appelé par cette famille des Cornélii, dont il avait converti le centurion, et il a logé chez les gouvernants de ces Cornélii, qui étaient justement Priscille et Aquila, les deux juifs. Et de là, il a commencé à prêcher à Rome. Et de son côté, saint Paul, qui avait facilement montré qu'il n'était pas coupable, mais vous savez, comme dans toutes les choses juridiques, on a hérité ça des Romains, ça va lentement, les causes juridiques vont lentement, et en attendant, il était gardé à vue par des soldats, mais on lui permettait de recevoir qui il voulait. Il a commencé par faire venir tous les juifs de la ville, en leur disant que s'il avait fait appel à César, ce n'était pas du tout parce qu'il était hostile aux juifs, d'ailleurs qu'il n'avait rien fait contre son peuple, mais au contraire, il n'avait fait que du bien en prêchant celui qui était l'espoir et l'attente d'Israël, à savoir le Messie, et il a commencé à leur annoncer Jésus. Et nous disent les actes des apôtres, beaucoup d'entre eux furent troublés, les uns croyaient, les autres ne croyaient pas, et saint Paul leur a encore cité Isaïe à ce sujet-là, mais un bon nombre d'entre eux se sont convertis, tandis que d'autres sont devenus des farouches ennemis de saint Paul et des premiers chrétiens. Et comme les juifs étaient terriblement intrigants, ils étaient quelque chose dans l'état qui était toujours un danger, alors l'empereur Claude, ne sachant pas comment s'en débarrasser, fit un édit d'expulsion de Rome et de toute l'Italie. Tous les juifs, quels qu'ils soient, étaient expulsés. Et par conséquent, Priscille et Aquila ont dû partir, Saint-Pierre et Saint-Paul ont dû partir, et bien entendu pendant ce temps-là, ils ont profité pour continuer leur conquête. C'est probablement à cette époque-là que Saint-Paul a poussé jusque dans le sud de la Gaule, où où il a laissé notamment à Narbonne Sergius Paulus, un proconsul qu'il avait converti dans l'île de Chypre, Saint Crescent également, et puis il est rentré dans les Espagnes, et là il a encore converti beaucoup de monde. Il est retourné aussi en Asie mineure, puisqu'on le voit avec Priscille et Acilla en Grèce. Et dès qu'ils ont pu, c'est-à-dire dès que l'empereur Claude est mort et que l'édit n'a pas été continué d'appliquer, les Juifs sont revenus doucement vers l'Italie et vers Rome, et avec eux, les apôtres sont revenus. Et à nouveau, Saint-Pierre et Saint-Paul ont été les deux grandes colonnes de l'Église romaine. Alors, s'est élevée contre les chrétiens la première grande persécution générale avec l'empereur Néron. L'empereur Néron, qui a incendié la ville parce qu'il voulait la rénover, et il était un petit peu dérangé en même temps. Et comme il savait que les chrétiens n'étaient pas très populaires parce qu'ils étaient considérés comme des païens et parce qu'ils ne voulaient pas vénérer les faux dieux, excité également par certains juifs, il a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, et c'est comme cela qu'il y a eu la première terrible persécution où il y a eu des milliers et des milliers de martyrs de gens du peuple. Mais, habilement, il n'a touché que les petits, il n'a pas touché ceux qui étaient importants. Ce qui fait que Saint-Pierre et Saint-Paul n'ont pas été touchés parce qu'ils étaient protégés par des grands. Et à ce moment-là, Saint-Pierre s'est demandé s'il devait rester ou s'il devait partir. Et pour le bien de l'Église, comme il l'avait déjà fait une première fois, puis pour revenir après, là il avait fondé la chaire de Saint-Pierre, celle de Rome, et ses successeurs allaient devenir les chefs de toute la Sainte Église, les papes. Et c'est là que, fuyant en Rome, il a vu le Christ. Saint-Pierre a dit à notre Seigneur, « Quo vadis, où vas-tu ? Je m'en vais à nouveau pour être crucifié à Rome. » Puis le Christ a disparu. Saint-Pierre a compris que c'était venu l'heure où il devait lui aussi verser son sang en témoignage de l'Évangile. Et comme Néron était toujours là et qu'il voyait que sa persécution n'avait fait que, comme le disait Tertullien, être une semence de nouveaux chrétiens, il a essayé de tuer les deux chefs en même temps, en se disant, une fois que j'aurai tué ces deux chefs, eh bien, cette superstition tombera d'elle-même. Il a réussi à prendre Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux en même temps, et les a mis dans une prison qui est très célèbre, qui est au bord du Forum, la prison Mamertine, qui était tout simplement un trou creusé dans le sol, et où on descendait les prisonniers par une corde. Et on leur descendait la nourriture de la même façon. Alors vous voyez, s'il était impossible de s'échapper d'une pareille prison, et on n'y mettait que les grands prisonniers de marque. C'est là que notre Vercingétorix devait passer les derniers mois de sa vie, avant de servir de spectacle pour le triomphe de César. C'est là aussi que un célèbre lutteur contre Rome, Jugurtha, qui était en Numidie, dans le pays de Constantine, en Afrique, avait été mis aussi. C'est là aussi que d'autres grands prisonniers avaient été mis. Et là, il y avait une soixantaine de prisonniers avec eux. Ils étaient entassés dans cette prison. Eh bien, Saint-Pierre et Saint-Paul sont restés là pendant 9 mois. Prisonniers comme ça, il n'y avait pratiquement pas de lumière, puisqu'il y avait ce hublot en haut, c'est tout, et qui donnait sur une autre pièce gardée. Ils sont restés 9 mois. 9 mois par conséquent sans les sacrements. Ils pouvaient juste se confesser entre eux, c'est tout, mais ils ne pouvaient pas célébrer la messe, ils ne pouvaient rien faire, ils étaient privés de tout, comme nous, pendant 9 mois. Mais ils n'ont pas perdu leur temps. Et ils ont si bien convaincu tous les prisonniers qui étaient là, qu'ils les ont tous convertis. Et comme ils n'avaient pas d'eau pour les baptiser, ils ont fait sourdre une source par miracle. Et cette source, qui est dans la prison Mamertine, je l'ai vue de mes propres yeux, elle existe encore. Et elle est dans cette prison où maintenant on a fait une ouverture avec un escalier pour descendre plus facilement. Mais l'endroit est toujours le même, au pied du forum. Et là, ils ont baptisé tous les prisonniers. Et puis, ils ont même réussi à convertir leurs gardiens qui leur ont proposé de les laisser s'échapper. Mais comme ils savaient que c'était l'heure de Dieu, alors ils n'ont pas accepté. Et ce jour-là, le 29 juin de l'an 67, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'an de grâce 67, il y avait 34 ans que Saint-Pierre était chef de l'Église universelle. Ils ont été retirés tous les deux de prison le même jour. Saint-Pierre a été conduit au cirque de Néron, qui venait d'être construit par Néron pour servir de spectacle de gladiateurs, etc., où des gladiateurs se battaient avec des faunes, ou se battaient entre eux, et Saint Paul, étant citoyen romain, ne pouvait être exécuté que par le glaive. L'un a été conduit donc de l'autre côté du Tibre, au cirque de Néron, à l'endroit qui s'appelle le Vatican. Et Saint Paul sur la route d'Ostie, et en ce lieu, il a été décapité. Sa tête a rebondi par trois fois sur le sol, et sur les trois lieux où la tête a rebondi, ont jailli trois sources. Et c'est l'endroit que l'on appelle près de la basilique, l'actuelle basilique de Saint Paul hors les murs, parce que c'est assez loin hors les murs, trois fontaines. Et effectivement, encore maintenant, il y a ces trois fontaines qui sont l'endroit exact où Saint Paul a été donc martyrisé. Et Saint Pierre, conduit au Vatican, dans ce cirque de Néron, on lui a dit, voilà celui qui prêche comme Dieu, comme étant Dieu en plus, un pauvre juif qui a été crucifié, qui a été condamné par notre gouverneur Pilate et crucifié. Eh bien, puisqu'il l'aime tant, on va le crucifier aussi. Et on va voir si son Dieu est puissant, ben qu'il le délivre donc. Et Saint-Pierre, qui s'était laissé aller il y a bien des années à renier notre Seigneur, et qui en avait tellement pleuré pendant sa vie qu'à chaque fois qu'il entendait le chant d'un coq, il pleurait et il en avait des marques partout au-dessous des yeux. Il a dit, oh, je ne suis pas digne de mourir de la même façon que mon maître. Et il a demandé qu'au moins on change le supplice. Alors on lui a mis la tête en bas et les pieds en haut. Et c'est pourquoi souvent on représente Saint-Pierre avec une croix, avec la barre en bas, parce qu'il a été crucifié la tête en bas. Et évidemment, vous pouvez penser que le supplice n'a pas duré très longtemps. Le sang remontant très vite à la tête, il a été rapidement asphyxié et en est mort. Voilà donc comment les deux grands princes de l'Église sont morts tous les deux en témoignage, ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang. Eh bien, quand vous allez à Rome, essayez de me dire où est le cercueil, où est l'endroit où est Néron. On vous montre encore le tumulus où se trouve l'empereur Auguste et plusieurs autres empereurs, mais les gens passent devant, si on regarde avec une certaine curiosité, mais enfin on s'y arrête à peine. Et où vont les pèlerins qui viennent du monde entier quand ils viennent à Rome? Ils ne viennent pas s'arrêter sur cette petite tombe-là, Les empereurs, qu'on vient voir seulement par curiosité, ils viennent tomber à genoux, baiser le sol à l'endroit où se trouve le corps de Saint Paul sur la voie d'Ostie, là où il y a maintenant la basilique Saint Paul hors les murs, ou à Saint-Pierre du Vatican, puisque derrière le cirque de Néron, il y avait un cimetière, et c'est là qu'on a creusé une cavité et qu'on a mis le corps de Saint-Pierre, et sur ce corps, on a bâti la première basilique. Et on a réalisé la parole de notre Seigneur d'une façon littérale, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et quand, au moment des fouilles qui ont été faites sous Pie XII, comme on avait les renseignements, on a fouillé aux étages, on a retrouvé une première basilique en dessous, avec une première confession, on a refouillé encore un étage en dessous, et on a retrouvé enfin les restes de Saint-Pierre, qui n'ont fait que confirmer qu'à l'endroit même de la confession de l'autel principal de la basilique Saint-Pierre du Vatican, se trouve le corps de Saint-Pierre.
Voilà donc ces princes de l'Église qui ont si bien subjugué non seulement le monde entier, mais même cette capitale de Rome, que les empereurs se sont sentis tout petits moralement devant eux et devant leurs successeurs, les souverains pontifes. Ils ont alors commencé une lutte à mort contre ce pouvoir spirituel dont ils pensaient qu'il allait atténuer le leur, et ils se sont mis à persécuter à outrance toute l'Église romaine et particulièrement ses chefs, les pontifes romains, les papes. Et pendant 300 ans, jusqu'à l'édit de Milan et encore un petit peu après, avec des retours de persécution sous Constance, le fils de Constantin, et surtout sous Julien l'Apostat, le petit-fils de Constantin, presque tous les papes sont morts martyrs. Être élu pape, dans ces premiers siècles, c'était être condamné à mort dès que l'on serait pris. Et malgré tout, les papes ayant fait leur devoir jusqu'au bout, ayant prêché avec audace la vérité jusqu'à offrir leur propre sang, les empereurs étant dépassés par cette force morale, se sont sentis trop petits devant eux. Et à l'imitation de César, le premier d'entre eux, qui avait eu cette parole célèbre, « Je préfère être le premier de mon village que le second à Rome », les empereurs et Constantin le premier ont laissé la place à Rome au souverain pontife, au pape, et ils sont partis aller s'installer ailleurs. C'est ainsi que Constantin a fondé Constantinople, où a été constitué le siège de l'Empire, même si, surtout après les coupures entre l'Orient et l'Occident, plusieurs empereurs sont revenus en Italie. Ils revenaient bien sûr régulièrement à Rome, mais ils ont préféré s'installer notamment à Ravenne ou à Milan, car ils se sentaient vraiment trop petits à Rome, et eux aussi préférer être le premier à Constantinople ou à Ravenne que moralement le second à Rome. Voilà donc toute la grandeur de ce pouvoir spirituel, la grandeur de ce nouveau royaume du Christ, royaume spirituel, dont les frontières ont dépassé toutes celles de l'Empire romain pour atteindre le monde entier et dont la durée a dépassé celle de tous les empires et de toutes les dynasties les plus longues, puisque 2000 ans après, les papes étaient toujours à Rome et continuaient à diriger la Sainte Église. Le bon Dieu a même voulu que un empereur autre que celui des Romains, un empereur franc, un roi des Francs, Pépin le Bref, le père de Charlemagne, donne en plus de Rome toute une partie du centre de l'Italie pour former un état pontifical que l'empereur Charlemagne agrandit encore. Car le pape était souvent attaqué par toutes sortes de barbares, il a appelé souvent les Francs à l'aide, et ceux-ci ont compris que ce pouvoir spirituel avait besoin d'être entouré comme par un pouvoir temporel également, pour pouvoir exercer librement cette principauté spirituelle sur toute l'Église et donc sur le monde entier. Voilà donc l'immense grandeur de ces deux apôtres, de ces deux princes de l'Église, qui, comme du reste les autres apôtres, ont tous été martyrisés, y compris Saint Jean, même si par miracle il a échappé à la mort. Et tandis que Saint Paul a été décapité et que Dieu a voulu faire un miracle, puisque non seulement sa tête a rebondi trois fois et il en a jailli trois fontaines, mais encore il a permis que au sang qui coulait de sa gorge se mêle du lait, ce qui a frappé les bourreaux qui se sont convertis. Saint Pierre, martyrisé donc la tête en bas, comme marchant déjà vers le ciel où il s'est envolé directement. Telle est donc cette solennité si importante de Saint Pierre et Saint Paul qui marque l'établissement si solide de la papauté fondée sur le sang de tous ces premiers papes. Pouvoir spirituel sublime qui a été reconnu par les siècles et que le Moyen-Âge a voulu marquer d'une façon plus sensible par la tiare, qui est une triple couronne. Les princes portant une couronne, les princes et les rois, les empereurs deux couronnes et les papes trois couronnes, pour montrer qu'ils étaient comme l'arbitre, au moins en matière spirituelle, des autres rois et des autres princes. Triple couronne qui représente aussi le triple pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le pape est le vicaire visible sur la terre, à savoir le pouvoir sacerdotal, le pouvoir prophétique qui parle avec autorité au nom de Dieu et le pouvoir royal. Papauté qui a aussi été le fondement de l'unité de toute la chrétienté et par elle le fondement de l'unité de tous les peuples civilisés. Papauté qui a donc été une source incomparable de bénédiction et de lumière pour le monde entier. Papauté qui devait être et qui a été effectivement l'obstacle empêchant l'arrivée de l'Antéchrist en tenant et retenant le diable lié. Et du jour où ce pouvoir d'éclat, ce pouvoir de lier, de délier, ne s'exerce plus, le diable, alors déchaîné et plus retenu par aucune force, a fait à nouveau se révolter les peuples contre le doux joug du Christ roi, de notre Seigneur, pour leur propre malheur. Et il a entraîné une telle dégradation qu'en quelques décennies, il a fait redescendre le monde chrétien à la barbarie antique, jusqu'à des lois contre nature, des inversions de la notion du bien et du mal, et une rapide et profonde déchéance intellectuelle et morale. Aussi, rendons grâce à Dieu du don si précieux de la papauté qu'il nous a accordé durant des siècles, et implorons-le avec Notre-Dame, Secours des chrétiens, de venir à l'aide de notre détresse présente, de daigner abréger les jours de cette épreuve comme il l'a promis, et de nous envoyer le secours qu'il a annoncé pour les fidèles qui auront à lutter contre les antichrétiens et l'antéchrist. Que la grâce de Dieu nous soutienne par l'exemple de Saint Pierre et de Saint Paul et des milliers et des millions de martyrs qui ont offert leur sang pour rester fidèles, qui nous accorde à nous aussi la grâce de rester fidèles à notre divin roi, notre Seigneur Jésus-Christ, et à notre mère, la Sainte Église catholique, jusqu'à la mort et jusque dans l'éternité bienheureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.